Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.
Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec Politis. Bonjour Denis Sifer.
Bonjour.
Votre regard, ce que nous dit l'affaire de Sciences Po, vous revenez sur la tenue d'une réunion de solidarité avec Gaza à l'IEP de Paris et sur une phrase qui aurait été prononcée à l'adresse d'une étudiante, ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste.
Oui, c'est ce qu'on appelle un emballement médiatique et politico-médiatique même, parce que on a d'abord commenter, condamner, hurler avec les loups, avant de savoir ce qui était arrivé réellement. Et on a vu des éditoriaux qualifiant d'antisémites les étudiants qui avaient organisé cette manifestation en solidarité avec Gaza. On a vu le Premier ministre et la ministre de l'Enseignement supérieur accourir à Sciences Po d'une très grande vitesse, une très grande célérité. Et puis on a même entendu le président de la République au Conseil des ministres dire que tout ça était intolérable et qu'on avait là une démonstration d'antisémitisme. Et donc ensuite seulement on s'est interrogé sur la réalité de l'événement. On s'est rendu compte que c'était en grande partie, même probablement totalement inexact. La jeune fille elle-même, faut reconnaître d'ailleurs qu'elle a été honnête sur le coup, cette jeune fille de l'Union des étudiants juifs de France a reconnu qu'elle n'avait jamais entendu de propos antisémites, même antisionistes à son encontre, et qu'on ne l'avait pas empêchée d'entrer, qu'elle était rentrée d'ailleurs. Et on a appris que si elle a été interrogée, disons, avant d'entrer, c'est parce qu'elle avait précédemment filmé des participants à ce genre de manifestation pour mettre leurs photos sur les réseaux sociaux, entraînant, disons, des attaques personnelles sur ces réseaux sociaux. Donc, c'était pas parce que juive, comme selon la formule consacrée, hélas, mais parce qu'elle avait commis ce genre d'acte auparavant, et puis elle n'a pas été empêchée. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les commentaires ont continué, et la ministre de l'Enseignement supérieur, bien après, a même encore donné une interview au journal du dimanche, le journal de Bolloré, pour continuer comme si de rien n'était, comme si l'accusation initiale avait été confirmée, ce qui n'est absolument pas le cas. Et il reste que ces jeunes gens ont commis l'erreur de ne pas retenir, selon les règles administratives, dans l'amphithéâtre qu'ils voulaient utiliser. Bon, c'est en effet pas bien, mais c'est quand même, on est très très loin des accusations dont ils ont été la cible.
Comment expliquez-vous cela ?
Mais je l'explique, j'évoque un deuxième cas d'ailleurs, parce que je trouve que c'est tout à fait significatif du même ensemble. Disons, c'est les attaques dont soudain a été la cible Rima Hassan, qui figure sur la septième place sur la liste de LFI pour les européennes, et qui d'un seul coup a eu une notoriété dont elle se serait bien passée, puisqu'elle a été accusée de soutenir le Hamas, et d'être pour la destruction d'Israël. Et quand on voit ce qu'elle a dit réellement, d'abord, elle a qualifié l'attaque du Hamas de terroriste tout de suite et sans équivoque, ce qu'elle n'a pas fait Mélenchon, par exemple. Elle a même contredit Mélenchon sur ce point. Et puis, quant à la destruction d'Israël, elle a dit qu'elle ne croyait plus à la solution à deux États, ce qui n'est pas pareil que d'être hostile à cette solution. Alors, il y a 700 000 colons, et on peut imaginer en effet que la solution à deux États va être difficile. Et du coup, elle s'est prononcée pour l'État binational, qui est devenu, dans le discours des mêmes commentateurs dont je parlais tout à l'heure pour Sciences Po, la destruction d'Israël, alors que l'État binational, c'est d'abord au contraire ravir les laïcs et les républicains, puisque c'est une organisation sociale qui n'identifie pas les gens à partir de leur religion et de leur origine ethnique. Mais j'ajoute immédiatement que c'est pas très important en ce moment de dire ça, qu'il faut plutôt défendre la solution à deux États, parce que c'est le droit international et qu'il faut s'appuyer sur le droit international. Mais enfin, on voit très bien que ça a continué malgré tout contre elle, alors qu'elle avait 10 fois, si ce n'est 100 fois, dit qu'elle condamnait l'attaque terroriste du Hamas, etc. Voilà. Et on a donc la même méthode. Et cette méthode, je crois que, puisque vous me posez la question, c'est en effet de vouloir disqualifier, discréditer et de jeter l'opprobre sur tous ceux qui tentent de combattre des bombardements à Gaza et d'appeler à un cessez-le-feu. Et on voit bien que le président de la République, le Premier ministre, la ministre de l'Enseignement, certains commentateurs n'ont rien de plus urgent que de traquer ceux qui appellent la solidarité avec les Gazaouis, alors qu'il y a 30 000 morts et des choses épouvantables qui s'y passent, y compris d'ailleurs une famine organisée.
Oui, vous écrivez que la famine est devenue une arme de guerre à Gaza.
Je ne suis pas le seul à l'écrire. Je l'ai lu même dans le monde, je crois, un peu partout, on le dit. Et c'est évidemment plutôt la marque d'une dictature, habituellement, d'agir de la sorte. Parce que la famine, ça touche essentiellement les enfants, voire même les nourrissons, hein, qui sont les premières victimes, qui ne sont pas des activistes du Hamas, que je sache. Donc on voit très bien que là, on a quelque chose, encore une fois, qui a du tournant génocidaire. Quand on s'attaque aux bébés, aux nourrissons, on est quand même dans un chemin qui conduit à quelque chose qui s'apparente au génocide, même si le mot fait encore peur, ou si révolte même un certain nombre de défenseurs inconditionnels d'Israël, c'est un fait. Et là, l'arme de la faim, c'est vraiment la preuve, disons, de cette dérive vers quelque chose qui s'apparente au génocide.
Ce qu'avait indiqué la Cour internationale de justice, hein, qui en janvier avait évoqué un risque de génocide, elle n'est pas suffisamment entendue, cette Cour ?
Elle n'est pas entendue du tout par la partie israélienne. C'est sûr qu'il l'a rejeté, et qu'il rejette d'ailleurs tout ce qui vient des institutions internationales. L'ONU, l'UNRWA, qui s'occupe des réfugiés et qui est maintenant totalement assimilé aux terroristes. C'est simple, tout ce qui ralentit, disons, le massacre et la politique de Netanyahou est immédiatement assimilé à du terrorisme. Ce sont des complices du Hamas, etc. Et y compris, disons, les organisations humanitaires qui tentent d'apporter des vivres, alors qu'il y a 150 camions, je crois, qui attendent et qui ne peuvent pas rentrer dans l'enclave. Et de ce point de vue, d'ailleurs, les États-Unis, la France et quelques autres sont tout à fait complices, puisque les envois par parachute de vivres sur Gaza, et maintenant des bateaux qui partent de Chypre, etc., et qui évidemment sont plus, hélas, de l'ordre de la communication que de l'efficacité, montrent que les grandes capitales occidentales ne veulent décidément pas, disons, poser le problème des sanctions contre Israël.
Merci, Denis Sifer.
Merci à vous.
Votre regard dans Politis, ce que nous dit l'affaire de Sciences Po.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.